Bonsoir à tous. Alors, avant qu'on ouvre le conseil municipal, je vais donc laisser la parole à nos collègues, nos jeunes conseillers municipaux, des conseils municipaux des enfants, qui vont nous présenter un petit peu leurs projets et leurs travaux de l'année, avec Laurence Carré qui va un petit peu les accompagner, Vanessa et Ghislaine, surtout Ghislaine, et ensuite Vanessa Savini nous fera également une petite rétrospective un peu sur les activités du périscolaire avec Laurence. Voilà. Donc, et j'ouvrirai le conseil à l'issue de cette présentation. Donc je laisse la parole, alors je ne sais pas qui commence.
C'est moi.
Ghislaine.
Bonsoir à tous. Alors déjà je vous présente le CME. Ici, vous avez quelques représentants du CME. Ils ont été élus en octobre 22, après une campagne électorale dynamique qui concerne les deux écoles de Vigné, l'école publique et l'école privée. Il y a 12 élus. On n'a pas la parité puisqu'il y a 8 filles et 4 garçons. Il y a 10 élus de l'école de la Mayette et 2 élus de l'école de la Providence. Nous nous réunissons une fois par mois et quelques fois plus en ce moment parce qu'ils vous diront les projets qui leur tiennent à cœur et qui demandent beaucoup plus d'assiduité. Et ils sont élus pour 2 ans. Et voilà. Et ils vont eux-mêmes vous présenter les projets qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation. Tu veux prendre le micro. Oui.
Culture et sport. Organiser un événement sur les arts urbains au City Park. Démonstration de vélo, trottinette, skate, bébé ox, grimpe, etc. En 2024.
Je dois être trop vieux, mais bébé box, s'il te plaît.
C'est un art urbain. C'est un art urbain musical.
D'accord.
Vous verrez, il faudra venir.
Oui, mais ils sont tout petits encore.
Organiser une chasse aux œufs pour Pâques, avril 2024. Création d'une boîte à livres des CME, livres jeunesse, dans le parc de la Providence, réalisée en juin 2023.
Rajouter des livres pour enfants dans la boîte à livres parce qu'il n'y a que des livres d'adultes.
Environnement. Participation à Vigné Ville Propre, défi CME en septembre 2023 et septembre 2024. Avoir des espaces verts dans les écoles, nouvelle école en cours.
La solidarité. En novembre 2023, on a organisé une mondée où on a réuni beaucoup de personnes pour qu'elles puissent passer du temps ensemble et pour casser des noix et pour renouer les traditions. Pour l'instant, on a un projet qui est en cours, c'est le Noël solidaire. Vendredi, on va remettre les boîtes à la Croix-Rouge. Et pour ceux qui n'ont pas encore rendu leurs boîtes, je les invite à les donner demain à l'accueil de la mairie ou vendredi à 18h pour le Noël en famille.
Projet de fin de mandat, rencontrer la députée, c'est Élodie Jacquet-Laforge. Et notre projet, c'est de se rendre à l'Assemblée nationale pour voir tous les députés et peut-être le président et visiter quelques monuments à Paris.
Merci beaucoup pour tout ce travail. Alors, il y a des actions qui sont vraiment formidables. Hein. Le Noël solidaire, je pense que c'est une action qui est magique, hein, qui nous rappelle à tous à quel point il est important de savoir regarder les autres et tendre la main vers les autres. Et ça, je vous remercie d'avoir eu cette initiative. Je crois que les boîtes sont arrivées par nombre. Plus d'une centaine qui étaient recensées là hier, je crois. Donc c'est plutôt, vous pouvez être fiers de votre action parce que c'est une belle action. Alors toutes les autres sont belles, mais celle-ci, c'est la dernière et elle était très belle. Vous êtes mobilisés également pour le marché de Noël pour avoir encore plus de chances. Donc bravo pour cette initiative et d'avoir tout mis en œuvre pour que ça fonctionne bien. Encore maintenant, tu viens de nous rappeler à quel point c'était important pour ceux qui ne l'avaient pas fait. La mienne est posée déjà. Donc, voilà, donc bravo. Effectivement, vous allez probablement, en fin de mandat, comme tu dis, aller rencontrer la députée Élodie Jacquier-Laforge, qui est également vice-présidente de l'Assemblée nationale, et pour vous faire visiter l'Assemblée nationale. C'est important aussi, je pense, de faire passer le message et d'expliquer comment fonctionne le rouage de notre République. Donc ça, c'est bien, c'est une bonne initiative également. Et toutes vos actions, j'ai appris donc le bébé box, je me renseignerai, je regarderai un peu plus, mais c'est bien. Enfin, franchement, c'est une belle initiative, ça nous révèle à chaque fois, nous, les adultes, quelques sujets à approfondir. On voit votre attachement à la lecture, à l'environnement, et ça, c'est important. Donc, merci pour votre travail. Merci à Gisten et tout son staff aussi. Et je vais bien sûr te laisser la parole pour conclure.
Non, pour conclure. Et puis aussi, vous devez les voir à chaque...
Parle devant.
Il faut que je parle devant. À chaque commémoration, du moins les commémorations principales, qui sont le 11 novembre, le 8 mai et le 14 juillet, nous travaillons en amont les textes que le ministre nous envoie ou les différentes sociétés ou associations d'anciens combattants ou du souvenir français. Et ceci, c'est aussi une éducation au devoir de mémoire que doivent faire les enfants et tout un chacun, de ne pas oublier ce qui s'est passé dans notre histoire de France.
Qui veut parler des commémorations? Monsieur Commémoration. Allez, est-ce que vous aimez participer? Oui. Ah bah vous pouvez parler sans micro si le micro vous fait peur. Allez.
Moi, je pense que les commémorations sont importantes parce qu'on fait. On rend hommage aux morts. Et pour moi, c'est important parce que grâce à eux, on a.
Merci.
Et alors, moi, je peux rajouter qu'on a Monsieur Commémoration ici. Il est incollable. Vraiment, on peut vous le dire, il est incollable en histoire. Il nous sidère. Vraiment, je veux les remercier.
Félicitations.
Bien sûr, enfin, s'il y a des questions pour le fonctionnement du CME, alors directement aux jeunes ou à Ghislaine, on peut prendre un moment pour débattre dessus. S'il y a des questions. Pas de questions. Eh bien, merci. Merci beaucoup encore une fois pour votre travail. Et puis, rendez-vous vendredi pour la restitution des boîtes solidaires. Merci. Je laisse la parole, donc c'est qui
oui.
C'est toi, à Vanessa Savigny pour nous présenter donc l'activité du périscolaire et plus particulièrement même du service scolaire en même temps, avec plus sur le périscolaire.
Donc, comme vous l'avez compris, la municipalité a à cœur d'associer les enfants dans la vie de la commune, donc par le biais également du Conseil municipal des enfants. Et on va vous présenter donc le budget scolaire, périscolaire et culture, donc de la direction éducation, jeunesse et culture. Car il faut le souligner, ça représente à peu près un quart du budget communal. Donc voilà, les services scolaires, périscolaires, le service restauration scolaire et hygiène des locaux et le service culturel. Donc il faut savoir, pour mémoire, que le coût d'un enfant en maternelle est de 1552 euros et le coût d'un enfant en élémentaire de 757 euros. Donc la différence s'explique, bien entendu, en maternelle par la présence des ATSEM. Donc le scolaire, donc mise à disposition d'une ATSEM par classe, sachant qu'on a 6 classes depuis 2 ans, l'ouverture de la 6e classe. Donc c'est notre volonté politique de mettre une ATSEM par classe, sachant que la moyenne nationale, comme vous pouvez le lire, est une par classe de petite section. Nous avons 2 petites sections. Une pour 2 classes de moyenne section, donc nous avons 2 classes de moyenne section. Et une pour 2 classes de grande section, et nous avons 2 classes de grande section. Donc si on suit la moyenne nationale, notre obligation serait de 4 ATSEM. Aujourd'hui, on en a 6, c'est un choix politique, afin d'aider, d'être en soutien aux enseignants, pour donner les meilleurs moyens aux élèves. Donc vous voyez, le coût des ATSEM est quand même de 122 000 euros. Donc il faut savoir que cette année, pour l'année scolaire 2023-24, s'est posé la question de conserver cette 6e ATSEM, parce que c'est un budget quand même conséquent, et donc on n'est pas obligatoire. La question se reposera bien sûr pour la rentrée prochaine, bien évidemment. Notre soutien pour les fournitures scolaires et sorties scolaires aussi, donc c'est à notre bon vouloir. Donc on donne 45 euros par enfant élémentaire et maternelle et 80 euros par classe. Il faut savoir que la moyenne sur notre territoire est environ de 39,50 euros par classe. Plus notre soutien financier pour les sorties scolaires, qu'on rajoute à cela, 500 euros par classe en maternelle et 70 euros par élève en élémentaire, plus notre soutien à Carfani que nous avons remis en place et qui n'est pas un soutien des moindres, puisqu'il est de l'ordre de 24 000 euros par an. Donc on peut voir que la municipalité met tous les moyens auprès des élèves. Ceci donc représente 67 600 euros de soutien aux fournitures scolaires et sorties scolaires. Faut savoir que nos voisins les plus proches respectent simplement la réglementation des 4 ATSEM. Et nous sommes une des rares communes à bien vouloir aller au-delà des moyennes du territoire. Pour ce qui est de l'accès sport et culture, donc on avait mis en place des conventions d'objectifs avec les associations. Cette année, là, au périscolaire, on a beaucoup d'associations qui vont participer avec des beaux projets. Ça, c'est une belle initiative aussi d'avoir mis ces conventions d'objectifs. Et les associations sont très partenaires dans ce cadre-là. Les maîtres nageurs. Donc, comme vous savez, au mois de juin, les scolaires vont à la piscine Avinay. Donc nous, on met en place, depuis qu'on est en place, on a mis un 3e maître nageur. Avant, il n'y en avait que 2, qui étaient uniquement là pour la surveillance, comme il y a 2 bassins. Et la pédagogie se faisait par les enseignants et les parents agréés. Pour soulager les enseignants et puis le manque de parents agréés, on a décidé de mettre un maître nageur supplémentaire, donc également qui a un coût assez conséquent, afin qu'un maître nageur puisse aider en pédagogie. Donc les enseignants nous remercient vivement de cet accompagnement. Ça aussi, on n'est pas obligé, mais on le fait. On propose aussi 10 séances par classe et par an, donc du CP au CM2. Donc, comme il y a 5 niveaux de classe, ça fait à peu près 50 séances, alors que l'Éducation nationale préconise 36 séances pour le cycle du CP au CM2.
Je voulais juste là-dessus féliciter toute la commission scolaire et tout particulièrement Vanessa pour tout le travail qui est fait et cette action volontaire qui est menée, puisque aujourd'hui l'éducation, les jeunes, pour moi c'est la fondation d'une maison et c'est important qu'on mette les moyens pour qu'on ait des bonnes conditions d'éducation. Et parce qu'on sait quand même qu'aujourd'hui, c'est par l'éducation, par la culture et qu'on arrive à lutter contre toutes les déviances qu'on peut voir un peu de partout. Donc franchement, bravo pour tout le travail qui est fait. C'est un coût financier, vous voyez. Nous sommes à 6 ATSEM. La moyenne nationale, si on ramène à notre configuration, ça serait plutôt 4 ATSEM. Donc on est quand même un tiers de plus que ce qui est fait au niveau moyenne nationale. On donne presque 68 euros, 45 euros par enfant, alors que là, on est plutôt sur des moyennes à un peu moins de 40 euros. La natation, normalement, le devoir des communes, c'est uniquement la surveillance et pas l'enseignement, puisque l'éducation nationale prévoit que ce soit les enseignants qui fassent l'enseignement et les parents agréés. Là, on fait l'effort de mettre un maître nageur supplémentaire pour faire de l'enseignement. On est à 36 séances, on en fait 50. Enfin voilà, donc c'est vraiment une action volontaire de vraiment travailler sur le scolaire dans tous les axes. On commence de la maternelle jusqu'au CP, jusqu'au CM2 avec le voyage à Carfani qui ouvre d'autres horizons, hein, parce que ça peut paraître encore anecdotique en 2023, mais il y a quand même des enfants qui verront qu'une fois dans leur vie l'océan, c'est ce jour-là, ça existe encore. Donc franchement, je pense qu'on peut féliciter toute la commission scolaire pour toutes ces actions, tout ce travail qui est fait, et bien sûr avec notre directrice Laurence qui est sur la brèche tous les jours.
À Laurence maintenant.
Alors, avant de commencer, je vais juste laisser la parole à Yanis parce qu'il a eu un petit peu de retard et il avait envie de vous dire un petit mot. C'est aussi un jeune conseiller municipal.
Moi, je suis contente d'être au CME. Je trouve ça intelligent parce que du coup, les enfants, ils peuvent dire leurs idées et que on peut parler et faire remonter les idées de notre classe.
Merci. Donc je reprends la présentation de la direction éducation jeunesse culture. Donc en lien avec le périscolaire, aujourd'hui le périscolaire sur la ville de Vinay, il a vraiment évolué puisque on a l'équivalent de 137 enfants qui sont inscrits au périscolaire sur 155 enfants scolarisés. Donc c'est pratiquement 88% de fréquentation. Sur l'élémentaire, c'est identique. Hein, on est même à 91% de fréquentation. Donc, c'est effectivement un mode de garde. Mais avec le PEDT qui est mis en place, ce n'est pas que un mode de garde aujourd'hui. C'est vraiment des actions qui sont mises en place pour la réussite éducative des enfants. Notamment, sur la pause méridienne, on réalise pas mal d'actions en lien avec la gestion et le tri des déchets. Donc il y a des nouveaux achats qui ont été faits, comme des tables de tri, pour que les enfants puissent apprendre à trier les déchets. Nous allons également, nous allons enfin avoir notre Madame Kaya Charlène, qui sera missionnée sur une mission de service civique qui arrive le 8 janvier. On avait déjà eu une jeune qui était venue dès le début de la rentrée scolaire, mais qui malheureusement a décidé de rompre sa mission de service civique qu'elle avait commencée. Et là, on a trouvé une nouvelle jeune qui arrive début janvier. Il y a également, au niveau de la pause méridienne, énormément de décorations et de repas à thème qui sont mis en place, comme notamment la Coupe du monde de rugby qui a été très suivie par les enfants et qui a été suivie au niveau du restaurant scolaire où on a pu partager avec eux les résultats, mais également toute la décoration du restaurant scolaire. Ensuite, il y a les activités après la classe. Donc les activités après la classe, ce sont uniquement des activités qui sont réalisées par l'ensemble de l'équipe d'animation avec un projet pédagogique et avec un thème qui est cette année, pour l'année 2023-2024, et le voyage autour du monde. Et c'est un vrai fil conducteur qu'on a tout au long de l'année. Donc on a pu cette année aussi visiter la Grande Expo avec les enfants qui n'ont pas pu s'y rendre pendant le temps scolaire. Ils ont énormément apprécié. C'est aussi les ouvrir à la culture, comme pour la bibliothèque, où on a un lien aussi avec la bibliothèque sur le périscolaire, où on peut s'y rendre. Des activités de cuisine qui ont été mises en place aussi cette année. C'était une nouveauté, c'était une demande des enfants. Donc les animateurs ont répondu à cette demande. Et puis pour la deuxième édition, l'équipe du périscolaire et les enfants auront à charge de créer Monsieur Carnaval, puisque c'est un projet partagé avec les équipes pédagogiques dans les écoles. Au niveau de la parentalité, de l'accompagnement des familles, c'est quelque chose qui est important aussi à Vinay, puisque les tarifs scolaires sont tous au quotient. C'est une obligation, mais il faut savoir qu'à Vinay, nous sommes l'une des communes du territoire qui avons le plus de tranches de quotient. On a 10 tranches de quotient, ce qui permet de se rapprocher le plus possible au plus proche des familles qui ont des revenus différents et qui peuvent avoir une facturation qui s'approche le mieux de leur pouvoir d'achat. Donc du coup, on peut voir aussi qu'au niveau de la pause méridienne, sans rentrer trop dans les détails, on est sur 1,06 € pour les familles qui ont un quotient en dessous de 200 €. et on est à 4,88 € pour les familles qui ont un quotient supérieur à 1 600 €. Là aussi, sur les tarifs périscolaires, on est sur les tarifs les moins élevés du territoire. En ce moment même, il y a une enquête qui est réalisée de la part de la communauté de communes sur l'ensemble des communes voisines pour qu'on puisse avoir une petite idée un petit peu de la différence des tarifs périscolaires sur les communes. Voilà. Et pour l'instant, elle n'est encore pas terminée, mais ce qu'il en ressort, c'est que Vinay, on est sur les tarifs les plus bas. Pareil, toujours dans l'accompagnement des familles, hein, pour faciliter, on vient de mettre en place il y a 2 mois le prélèvement automatique pour les familles. Les familles qui le souhaitent peuvent aujourd'hui mettre en place le prélèvement automatique qui permet d'être prélevé directement sur les factures périscolaires. Et ça également, c'est quelque chose au niveau du territoire qui n'est encore pas totalement développé. C'était une vraie volonté aussi du Trésor public parce que ça facilite les paiements et ça évite les oublis souvent de paiement des familles. Et puis, très récemment, de nouveaux événements hein, qui viennent un petit peu créer de la parentalité et des échanges entre familles. La balade au Lampion du 8 décembre dernier, qui a été une vraie réussite puisqu'il y a eu plus de 120 personnes qui a participé à cet événement qui était organisé par les équipes périscolaires et les enfants, puisque ce sont les enfants qui ont fabriqué les lampions. Et puis, vendredi, le Noël des familles, qui va se dérouler de 18h à 19h. Croisons les doigts pour qu'il fasse beau et qu'on puisse faire ça dehors, sinon ça sera la salle des fêtes, avec bien sûr la présence du Père Noël. Et puis, en dernier point, la culture, donc la création d'une direction éducation jeunesse culture, donc la culture, une vraie volonté politique de promouvoir les arts, la créativité, l'éducation artistique et culturelle, quelque part, c'est de faire découvrir et d'attiser un petit peu la curiosité des enfants sur la culture. Donc il va y avoir dès ce début 2024 un audit qui va être réalisé par la direction afin de rencontrer toutes les associations culturelles. L'objectif, c'est vraiment de continuer à soutenir les associations culturelles en favorisant le développement des divers projets et de promouvoir surtout la mutualisation des forces du territoire. Quelques projets pour 2024. La fête de la musique avec certainement une scène ouverte qui sera proposée. Ça aussi, c'est une volonté de Madame Savigny. La semaine sans les écrans, c'est une volonté partagée entre les écoles et la commune hein, de proposer, de proposer cet événement. Les arts urbains au City Park, ça c'est plutôt en lien avec le CME. Donc du coup, la direction va porter aussi cet événement. Faire entrer l'art dans les écoles, c'est une demande des enseignants, c'est une volonté politique également. Donc ça devrait voir le jour aussi en 2024. La journée du jeu pour toutes et pour tous. Là, il y a un mélange entre les CME pour pouvoir faire de l'intergénérationnel, mais également une volonté de l'équipe périscolaire de vouloir organiser quelque chose autour du jeu pour tous et toutes. Et puis... d'ores et déjà une volonté politique de vouloir renouveler ces fêtes de fin d'année, puisqu'elles ont quand même, en ce début du mois de décembre, bien fonctionné. Voilà.
La diapo d'après. Oui. Donc voilà, le Noël en famille dont on vous parle depuis tout à l'heure, on vous rappelle l'affiche, donc de vendredi à partir de 18h au Parc de la Providence. Les chants de Noël que les enfants ont préparés au périscolaire. La fabrication des décorations qu'ils ont fait, le Père Noël qui sera présent. Nous remettrons les boîtes solidaires donc à la Croix-Rouge de Saint-Marcelin. Et puis surtout, une petite flash mob qui circule. Donc on va vite fait vous la montrer pour que vous commencez à prendre les pas et que vous participez tous au parc aux quelques pas de danse. En collaboration avec Impulsion Danse qui nous ont... ce petit chorégraphie. Qui c'est que... Merci. Ouais, on va s'arrêter là parce qu'elle est longue. Merci. Et le sous des écoles, voilà, qui va participer également pour proposer des boissons chaudes à ce moment-là. Donc on vous attend tous vendredi, voilà, au Parc de la Providence, sinon à la salle des fêtes. Merci.
vous avez des questions un peu plus... De toute manière, tout ça, on a déjà vu en commission, en comité de suivi, mais on tenait à rappeler ce soir, parce que comme c'est question de budget primitif 2024, l'importance quand même du service dans le budget. Donc on voulait vous le détailler quand même, voilà.
Merci encore. Donc oui, c'était aussi de faire le lien entre l'action qui est menée, effectivement la partie budgétaire, puisque là on est vraiment sur des actions sociales. Hein. Si on reprend sur le tarification de la pause méridienne, je pense qu'on est une des communes avec les tarifs les plus attractifs et prenant en compte vraiment les cautions les plus défavorisées. Donc ça, c'est des actions qui sont fortes. L'action qu'on mène également avec les tarifs d'une manière générale sur le Périsco. Toute la qualité aussi qui a été menée avec le PEDT, puisque ça, je remercie encore une fois Vanessa, toute son équipe, et parce que ça a été long à mettre en place. Il y a eu des réunions multiples, mais aujourd'hui, on voit que ça porte ses fruits. On sent des agents qui sont en permanence en formation. J'ai plus en tête le nombre de... BAFA, oui. Voilà. Qui vont terminer leur BAFA, puisqu'on a, qu'on a pris en charge donc, dans le cadre des formations pour avoir des agents donc, mieux formés, pour être encore plus pertinents auprès de nos jeunes publics. Cette action également, donc, dès la maternelle, comme je disais, avec une ATSEM par classe, toutes ces actions-là sont vraiment, pour moi, primordiales. Et là, on est vraiment dans les actions sociales par excellence, puisqu'on touche vraiment les jeunes publics, les jeunes enfants, dès le plus jeune âge. Jusqu'à la fin de la scolarité, je pense qu'on a la chance à miner. Et dans la foulée, on aura le projet école qui est en train de se finaliser, de se mettre en place, probablement un début de chantier courant 2024. Tout ça pour continuer à aller dans le même sens, puisqu'on pourra avoir une restructuration des activités par le biais du regroupement de ces deux groupes, cette proximité avec le restaurant scolaire. Et bien sûr, la rénovation et la mise en place de l'extension du gymnase qui va être tout à proximité du groupe scolaire. Et la bibliothèque, puisque l'architecte a été choisi, enfin là c'est un projet porté par l'Interco, mais je vous donne l'info, l'architecte a été choisi, les premières esquisses ont été montrées au service la semaine dernière. Donc dès, je pense, le premier trimestre 2024, je serai en mesure de vous montrer à quoi va ressembler la bibliothèque intercommunale à la place de la caserne des pompiers. De ce que j'ai vu, je peux vous dire que c'est assez bluffant et on aura vraiment un outil de culture aviné pour mettre en place pour les jeunes et moins jeunes, bien sûr, parce que là, par contre, ça sera ouvert à tout âge, mais vraiment avec une multitude de possibilités. Je crois que ça vaut vraiment on va vraiment passer sur une autre dimension. Donc voilà, donc merci encore pour cette présentation. Merci à la directrice, merci à tout le monde. Je vais procéder donc à l'ouverture du conseil municipal du 20 décembre 2023. Je vais commencer par l'appel. Jackie Sommeveil, donc, qui est excusée, qui est souffrant, donc qui est pouvoir à Myriam Charabazi. Vanessa Savini.
Présente.
Jean-Pierre Monnet.
Présent.
Myriam Charabazi.
Présent.
Justine Genin.
Présent.
Raymond Baudin. Jean-Pierre Marion, qui est excusé, il est en réunion avec les services du SDIS pour les problèmes de sécurité. Pouvoir à René Roja, Francine Arrigoni, Firmin Lopez, Pierre Bluna, excusé, il est à la réunion sur la GEMAPI à l'Albinque avec le CIMBI, donc pouvoir à Francine Arrigoni, Béatrice Rosan, excusé, pouvoir à Vanessa Savini, René Roja, Nicolino Tandambé, Patricia Morgado qui est souffrante, donc pouvoir à moi-même, Renaud Mélinon, Bérangère Champon, Anne-Cécile Germain, Delphine Raymond Along, Victoria Audin, excusez, pouvoir à Nicolas Bossupica, Alexandre Luxos, présent. Nicolas Bossupica, Eric Sévestrini, Christine Curto, absente, excusez, pouvoir à Eric Sivistrini. Daniel Mansip.
Présent.
Cécile Gaillard, absente, excusez, pouvoir à Daniel Mansip. Et Sylvia Vieuguet. Le quorum est atteint. Donc, je commence par le premier sujet, c'est l'approbation des deux procès-verbaux donc, du 8 novembre, qui était le débat sur le PADD, et du 15 novembre 2023. Est-ce qu'il y a des observations, des remarques? Oui.
Je vous avais dit que vous aviez la réponse de la DRAC, donc j'aimerais bien avoir cette réponse, la réponse que la DRAC vous a faite par rapport au 1% artistique. Moi, je les ai eues au téléphone, donc en fait, effectivement, l'école, il y a un équipement qui pourrait être au niveau du 1% artistique, c'est l'école de la Mayette. Voilà, et donc, bon, je n'ai pas l'impression que c'est un projet qui vous tient à cœur. Par contre, ben, effectivement, on vient de voir avec, avec donc le rapport sur les activités au niveau éducation, culture, etc., jeunesse, qui était intéressant. Et donc, je pense que c'est 1% artistique qui pourrait être intéressant aussi de travailler avec les élèves. Mais bon, je n'ai pas l'impression que c'est votre tasse de thé. Donc, effectivement, autant je pense qu'effectivement, donc c'est bien que dans cette commission, la culture est, au niveau des jeunes a été bien prise en compte. Je trouve ça très positif. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait une commission culture spécifique qui soit mise en place. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que la culture au niveau de la jeunesse et de l'enfance. Il y a aussi la jeunesse, la culture dans sa globalité. Et pour moi, c'est quelque chose qui pourrait être important parce qu'effectivement, face au dogmatisme et à l'obscurantisme parfois que nous vivons aujourd'hui, la culture, pour moi, est une antidote à la violence, car elle nous invite à la compréhension d'autrui et féconde la tolérance, la bienveillance en nous incitant à la rencontre d'autres imaginaires et d'autres cultures. Voilà, donc, réponse de monsieur le maire sur ce...
Alors, monsieur le maire, il va déjà vous répondre que c'est pas qu'il s'en fout, puisque c'est un peu ce que vous essayez de faire croire.
J'ai pas dit que
c'est que pour l'instant...
Est-ce que j'ai utilisé ce mot, monsieur le maire?
Non, vous n'avez pas utilisé ce mot, mais il n'était pas mieux et je ne l'ai pas retenu. Effectivement, vous avez dit que ça n'avait pas la ma tasse de thé.
Est-ce que j'ai utilisé ce mot?
Ou vous avez dit que ce n'était pas ma tasse de thé, donc c'est tout bien, c'était plus poli, mais ça veut dire la même chose. Donc déjà, ma tasse de thé à moi, aujourd'hui, c'est de construire une école. Et ma priorité actuellement, c'est d'aller chercher les financements pour construire cette école. Donc effectivement, aujourd'hui, nous n'avons pas encore tous les financements pour construire cette école. Mmh. Donc, il est évident qu'on se planchera, on a la réponse tardive de la DRAC, on l'a eue, donc on va se pencher, on en débattra.
Vous me la communiquerez.
On en débattra au conseil municipal, mais d'abord, avant ça, il faudra déjà s'assurer qu'on puisse construire l'école, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Mmh. Donc, je pense que la priorité des enfants, à mon avis, c'est d'avoir une école plus que le 1% artistique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ça, à mon avis, l'intérêt.
On peut donc, pas effectivement, une école, mais on peut construire mon vinet.
On en parlera après. Donc, effectivement, lorsque le projet sera totalement fixé, on a eu la réponse très tardive, et je vous avoue que c'était effectivement... C'est pas que ça nous intéresse pas, mais c'est pas non plus la priorité instantanée, non. Puisque la priorité, c'est de négocier avec le FEDER, les montants de subvention, etc. Après, évidemment, on aura tout le temps. C'est pas quelque chose qui est dans l'urgence. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des sujets qui sont plus urgents. Quand aujourd'hui, on prépare de dire est-ce qu'on maintient deux ATSEM supplémentaires ou pas, je pense que pour l'école, c'est plus important encore aujourd'hui. Et je préfère, et j'ai préféré, j'avoue, faire ce choix de travailler avec mon adjointe sur la partie budgétaire et dire on va là-dessus. Maintenant, ce sujet-là, le budget, on va en parler tout à l'heure, donc on verra après. Et le moment du 1% artistique, on aura l'occasion d'en parler quand le projet sera dans sa phase opérationnelle, puisque c'est à ce moment-là qu'on doit parler de cette chose. Et pour l'instant, le projet n'est pas encore tout à fait dans sa phase opérationnelle, donc on aura l'occasion d'en parler. Donc c'est pas qu'on a balayé du revers la chose. D'abord, la DRAC a mis très longtemps à répondre, ce qui est formidable, et ça c'est une administration que j'adore, c'est comme toujours ces administrations-là, ça répond plus vite aux particuliers qu'aux collectivités. Aujourd'hui, il faut mieux appeler...
Je ne suis pas une particulière, monsieur, je suis une élue.
Oui, je suis désolé, mais quand le maire pose la question, on met 6 mois pour répondre. Apparemment, vous avez la chance d'avoir des réponses rapides. Donc tant mieux. Bon, mais aujourd'hui, c'est une règle dans l'administration française.
Merci pour le
particulier. On répond souvent plus facilement aux particuliers qu'aux élus. Donc ça, c'est pas grave. Donc on l'a pas balayé. Simplement, on en redébattra et ça fera l'objet d'une réunion spécifique de la commission scolaire et culture. Et ça sera un sujet qui sera débattu. Et après, tout le monde pourra s'exprimer sur ce sujet-là. Pour l'instant, on n'a pas travaillé sur le sujet, je vous le dis, parce qu'il y avait d'autres priorités. La priorité, c'est l'activité opérationnelle. Quand l'école sera en phase opérationnelle, on parlera de ce sujet-là.
Et voilà, j'ai ma réponse.
D'autres questions sur le compte-rendu ?
Et puis oui, pour le compostage, c'est pareil. Donc,
on a fait la réponse pour le compostage.
Vous avez fait le constat qu'on n'a rien fait et que c'est au SEMVIC de prendre en charge ce problème. Moi je pense que la mairie de Vinay, elle pourrait aussi faire des actions. Par exemple, le service civique là, qui est embauché, c'est une très bonne chose au niveau du tri des déchets, etc. Donc il y a effectivement des possibilités de faire, même si c'est une responsabilité du SMVIC, en plus vous êtes vrai vice-président du SMVIC. Et donc, par exemple, moi je prenais comme exemple. Le programme qui a été fait par le SMVIC de la semaine européenne de la réduction des déchets, c'était très très intéressant. Par contre, sur Vinay, à part le grand séchoir, il n'y a pas eu d'action. Et je regrette qu'il n'y ait pas de commission environnement les élus qui s'occupent de l'environnement ne prennent pas en charge ce genre de choses. Alors, moi, je souhaiterais qu'il y ait une vraie commission environnement pour traiter de tous ces sujets. Par exemple, la semaine d'environnement, ça aurait pu être quelque chose de bien à faire sur Vinay. Et voilà. Et là, vous n'allez pas me dire que c'est le SMV qui l'a pris en charge. Voilà. Alors,
c'est une compétence effectivement intercommunale. Les actions au niveau intercommunal sont en train d'être, j'étais encore en séminaire ce matin là-dessus, sont en train de s'organiser pour que chaque collectivité puisse le mettre, puisque on n'est pas sur les 47 communes, on est tous sur la même dynamique, puisqu'aujourd'hui, l'idée, c'est-à-dire de ne pas faire de chacun réinvente l'eau chaude dans son coin, mais qu'on travaille d'une manière cohérente sur les 47 communes. Donc les actions vont être définies. Il y a quand même des actions qui ont été mises en place, parce que dans le cadre de la réduction de déchets, il y a eu l'action sur les poules, etc. Il y a eu deux, trois petites actions qui ont été faites, qui en font partie. Aujourd'hui, c'est comme toujours, le législateur vote des lois, donne pas les moyens, et surtout donne des délais qui sont inapplicables, parce que c'est pas lui qui le met. Donc aujourd'hui, le législateur a voté la loi, avec une date qui a été mise au 1er janvier 2024, ça va être très compliqué pour 95%, voire 99% des communes françaises. Et là, ça, je vous mets au défi de nous trouver le contraire, puisqu'aujourd'hui, les délais étaient tellement courts que personne n'a pu se retourner correctement.
Il y a quand même des villes qui l'ont fait.
Mais il y a des actions qui sont faites aussi. Et du coup, la communauté de communes, aujourd'hui, est en train de mettre ses actions et de redéfinir. Il y aura une communication qui sera faite là-dessus dans les prochains mois pour pouvoir organiser ça à l'échelle du territoire et pas d'une manière individuelle que chacun puisse refaire. Donc c'est en cours 2024, ça fait partie des objectifs du service de la communauté de communes qui va nous associer et qui va mettre en place ça dans toutes les communes.
Et moi, je souhaiterais, je réitère ma demande d'une commission environnement qui puisse mettre en place un certain nombre d'actions au niveau de la municipalité.
D'accord. Pour le compte-rendu, je mets au vote. Qui est contre ? Pour les deux comptes-rendus. Hein. Donc, vous voulez qu'on vote les deux séparés ou les deux à la fois ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Pour les deux ?
Non, pour celle du 15 novembre.
Celle du 15 ? Ok, merci. Je propose qu'on nomme notre secrétaire de séance, qui est toujours le plus jeune, Nicolas Bossupica. Est-ce qu'il y a des observations ? Je vous vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. On va commencer donc par la délibération 2023-75. Et là, je vais laisser la parole à Myriam Charabadzi pour les décisions budgétaires modificatives numéro 2 du budget principal.
Donc, bonsoir à tous. Cette délibération va porter sur une dernière modification au budget principal. Donc, après le vote du budget primitif, il est important d'ajuster les crédits nécessaires au fonctionnement des services et compléter, au cas échéant, les crédits des opérations d'investissement en fonction de leur avancement. Donc cette année, on avait voté une première modification qui avait été faite et aujourd'hui, donc, on en refait une deuxième afin de réajuster au mieux le budget 2023 avant la clôture. Donc cette modification va porter en fait sur une aide que nous avions touchée par rapport à l'inflation par le gouvernement. Donc suite à la parution du décret qui fixait cette aide gouvernement-inflation, l'augmentation du prix de l'énergie et l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, la ville finalement n'était pas éligible à cette aide. Donc l'État nous a versé une aide à hauteur de 31 190 euros, une avance. On n'en a finalement pas eu besoin, donc c'est signe de bonne gestion au niveau de notre budget, puisqu'on a réussi à maintenir des économies d'énergie et une bonne consommation au niveau de nos bâtiments et autres. Et aujourd'hui, on doit donc rembourser cette avance de 31 190 euros. Donc on est obligé de faire passer une décision modificative pour cela. Donc je rappelle que ça a été vu pareil en commission il y a 15 jours.
Des questions sur cette décision modificative du redout du budget principal 2023 ? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on mette au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc la 2023-76, c'est l'adoption du règlement budgétaire et financier. Toujours la parole à l'adjointe aux finances.
Donc pareil, là sur le précédent conseil du 15 novembre, la ville de Vinay a adopté le référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2024. Et conformément aux dispositions de cette nomenclature et aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, notre collectivité doit se doter, avant toute délibération budgétaire relevant de cette nouvelle instruction, d'un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature. Donc, ce règlement budgétaire et financier a pour vocation le rappel des normes, tant légales que réglementaires, ainsi que des processus de gestion qui sont propres à la collectivité. Ce règlement pourra évoluer et sera complété en fonction des modifications législatives et réglementaires, ainsi que des nécessaires adaptations des règles de gestion et processus de la ville. Donc là, c'est vraiment une obligation par rapport à la législation d'adapter un règlement à notre collectivité par rapport à la nomenclature M57.
Des questions sur le règlement budgétaire et financier donc lié à la M57 ? S'il n'y a pas de questions, je propose qu'on mette aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Toujours la 2023-117, toujours l'adjointe aux finances.
Donc dans la continuité de la précédente délibération, on doit mettre à jour les durées d'amortissement suite au passage à cette nomenclature. Donc pareil, suite à la délibération du 15 novembre, la ville a adopté le référentiel budgétaire et comptable, le nouveau à compter du 1er janvier 2024. Conformément aux dispositions de cette nomenclature et aux dispositions du Code général des collectivités, la ville doit mettre à jour ses durées d'amortissement, selon une réglementation assez technique. La responsabilité du suivi des immobilisations pour une collectivité territoriale est partagée entre l'ordonnateur et le comptable public, le premier ayant l'obligation de tenir un inventaire physique et comptable, et le second devant produire un état de l'actif. Donc, à compter du 1er janvier 2024, la ville adoptera un calcul de ses amortissements au prorata, avec un aménagement à ce principe proposé pour les catégories différentes qui font partie de cette nouvelle nomenclature. Donc je ne vais pas vous détailler, mais pour vous résumer, on doit faire une mise à jour par rapport au compte, aux différents chapitres, avec leur libellé, et mettre à jour la durée. Donc dans la délibération, vous retrouvez tous les commentaires par rapport à chaque chapitre. Donc c'est purement technique.
Des questions sur donc la mise à jour des durées d'abord. Bon, en fait, c'est le fait qu'on change de plan comptable et du coup, on change certaines règles.
C'est une remarque, ça fait. Il y en a marre de tous ces votes où on est obligé de toute façon de voter pour. C'est vraiment insupportable. Et ce serait bien de faire remonter un peu tout ça là-haut.
On est obligé de les faire passer en délibération.
Alors là, je suis tout à fait d'accord. Parce que c'est, voilà, donc, effectivement, je suis d'accord. C'est l'excès de démocratie. Donc je propose qu'on mette au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bon, cette fois, on va passer sur les délibérations où là, il y a un vrai vote. C'est donc la délibération 2023-78, donc qui est le vote du budget primitif 2024 de la commune. Donc, je vais laisser la parole à Myriam Charbazi, donc adjointe mais avant. Je voulais quand même féliciter Myriam et toute l'équipe de la commission finance, le directeur et le service financier, parce que pour la deuxième année, on va voter le budget en fin d'année. Ce qui est donc un peu exceptionnel puisque la plupart des communes de notre, en tous les cas les petites communes de notre taille votent le budget plutôt mars-avril et nous ça, on a pris la décision depuis l'année dernière, le directeur et tout le service financier de passer à un vote en fin d'année et ce qui rend quand même beaucoup plus lisible les choses et plus classique puisqu'on est sur une année civile, ça permet au service et après à tout le monde de travailler sereinement et engager des dépenses. On n'est pas obligé de faire des anticipations de dépenses avant d'avoir voté le budget. Là, on vote le budget et après, on travaille. Et ça nous permet, vous le verrez, d'avoir des taux du coup de réalisation qui sont assez bonnes parce qu'on n'est pas justement en vote le budget en mars ou en avril et on clôture en décembre, ça ressemble à rien. Voilà, donc merci à eux, merci pour tout le travail qui a été fait pour remplir les délais parce qu'il y avait... L'année dernière, c'était la première fois qu'on passait, donc il y avait un travail encore complémentaire à faire. Et cette année, on nous a fait une petite boutade, on nous a changé le plan comptable, on passe de M14 à M57, ce qui est sympa. Voilà, donc on va espérons que 2024 soit plus simple, parce que là, on vient de faire deux années assez sympas au niveau financier. Merci, Myriam.
Allez, on y va. Donc moi déjà, voilà, je voulais vous dire qu'après avoir présenté le débat d'orientation budgétaire au Conseil du 15 novembre, avec sa validation, la continuité est donc le vote du budget de 2024. Je voulais souligner l'augmentation des coûts due à l'inflation qui aujourd'hui reste compliquée. Notre ville poursuit ses efforts et ses investissements pour les Vinoises et Vinois, tout en faisant des choix, des ajustements, pour maintenir et assurer un budget sain. On peut dire que nous sommes dans des investissements volontaristes afin de répondre au mieux à nos administrés à hauteur des enjeux avec des chantiers phares pour nos jeunes, nos associations, l'économie de la ville, le bien-être au quotidien et l'entraide sociale. Nous marquons par cela un engagement fort et je tenais aussi également à remercier les services notre directeur pour tous ses travaux menés, mais aussi à monsieur le maire et puis l'équipe pour notre implication, nos prises de décision, nos participations et tout le travail que l'on mène au long des commissions et qui sont validées par les Vinois. Donc pour commencer, on voulait vous souligner l'évolution de l'épargne de la ville. Après une baisse en 2021 liée essentiellement à la crise sanitaire, les soldes intermédiaires de gestion ont retrouvé le niveau de 2020, notamment pour l'épargne nette. Malgré la contractualisation du nouvel emprunt en 2023, on voit que l'épargne de gestion et l'épargne brute ont progressé sur la période et ça reste un indicateur de bonne gestion et de bonne maîtrise des dépenses publiques. Donc vous voyez que sur le CA estimé de 2023, on arrive à une épargne de gestion à 852 134 euros, une épargne brute à 737 190 euros, et une épargne nette à 298 327. Donc on est plutôt sur un équilibre par rapport à 2020 et 2021 qui n'ont pas été des bonnes années de référence. On voit qu'aujourd'hui, on est sur des indicateurs de bonne gestion. Sur la capacité de désendettement, le ratio de la capacité de désendettement rapporte le stock de la dette à l'épargne brute. Il indique le nombre d'années nécessaires au remboursement intégral de la dette sans investissement supplémentaire. En 2023, le ratio a bien entendu augmenté, il est passé à 7 ans, mais cela fait suite à la mobilisation de l'emprunt à hauteur de 1,3 million et à la progression de l'épargne brute. Donc ces 7 ans restent dans la normale d'une ville de notre taille, dans la strate normale. Donc on était sur 2020 à 4 ans, on a eu une hausse entre 2021 et 2022. Aujourd'hui, on passe à 7 ans, mais bien entendu que sur les années suivantes, on a des emprunts qui vont s'arrêter. Donc, on redescendra un petit peu plus tard à partir de 2026 ou 2027, il me semble.
Pour les collectivités, les banques mettent le seuil d'alerte autour de 12, autour de 12 ans. Voilà, c'est ce qui est mis sur une banque. Les banques, quand ils regardent, ils donnent le maximum. Au-delà de 12 ans, ils étudient.
Est-ce qu'on peut intervenir ou on laisse finir?
Oh bah oui, c'est possible.
Mm-hmm. Que ça soit. Alors moi, je vais juste intervenir, juste dire que. Bon, apparemment, c'est la soirée des félicitations. Alors, c'est bien, moi, je félicite aussi, j'en profite, puisque tout le monde se félicite ce soir. On est quand même passé de 4,2 à 7. Donc oui, c'est certainement de la bonne gestion, mais c'est de la bonne gestion qui a été quand même aussi beaucoup aidée par un certain nombre de ventes d'actifs, dont la station, et qui a quand même bien aidé à cet équilibre qui, j'espère, ne va pas continuer à descendre, puisque vous avez un beau projet. En tous les cas, tout le monde le croit, donc c'est bien un beau projet sur le château, et que j'espère que ces projets-là ne vont pas empêcher les projets de l'école à arriver. Je voulais juste faire une petite remarque à Myriam. L'orientation n'a pas été validée. Elle a été présentée. C'est la première chose. Et pour ce qui est la validation des Vinois aujourd'hui sur la gestion, pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Voilà.
Quand je dis qu'elle a été validée, c'était en commission avec la présence de, voilà, des participants à la commission. Mais bien évidemment que ce n'est pas voté.
Très bien, la commission a validé.
Voilà.
Alors, oui, je confirme que les Vinois auront l'occasion de valider dans des échéances futures. Par contre, je voulais quand même rebondir. Effectivement, on est passé de 4,2 à 7, mais on construit quand même un gymnase à hauteur de 4 millions d'euros, donc qui est totalement fait pour les Vinois. On a fait un espace de loisirs dedans, qui est donc le... On a remis à niveau la plupart des équipements sportifs. Donc aujourd'hui, c'est pas non plus sans... d'abord, si on augmente, c'est parce qu'il y a de l'investissement et parce qu'aujourd'hui, les structures devaient être rénovées. Le gymnase avait plus de 40 ans, etc. Donc effectivement, bah oui, comme quand on construit sa maison, bah, y a un petit moment, on est un peu plus endetté que quand on a 60 ans. Oui, c'est vrai.
Maire, que j'ai dit que ça n'avait pas encore dérapé et que j'espère que ça dérapera pas.
Donc pour rappeler le contexte pour le budget primitif 2024, on a donc la nomenclature budgétaire et comptable M57 qui se substitue à la nomenclature M14. Le budget 2024 de la ville est présenté et sera voté en adoptant cette nouvelle nomenclature. On a une très forte augmentation du coût de l'énergie pour 2024, la forte inflation en 2023 et un résultat estimé en 2023 permettant un maintien de la capacité d'investissement de la ville et une maîtrise des charges de personnel. Donc on vous rappelle un petit peu le contexte pour l'élaboration de ce budget. Sur les différentes orientations qu'on a donc pu voir déjà en commission, on met l'accent encore et toujours sur la mise en œuvre d'une politique de sobriété énergétique, notamment sur la poursuite du passage en LED des éclairages extérieurs, le passage en LED des éclairages au niveau des bâtiments également, la gestion technique centralisée pour le pilotage du chauffage et de la clim pour la mairie, la salle des fêtes et peut-être d'autres bâtiments communaux. L'extension du chauffage urbain, probablement pour le château et la salle de la chapelle. Et puis un pilotage piscine, à savoir des études pour améliorer les économies d'énergie par des bâches ou des panneaux solaires. Un engagement très fort auprès des enfants et de la jeunesse avec la construction de l'école ainsi que des personnes les plus vulnérables avec le projet de construction de la nouvelle école. Un soutien fort encore aux écoles comme on a pu voir avec une ATSEM par classe et le maintien du montant des fournitures scolaires. Toujours et encore le PEDT avec les tarifs périscolaires et restauration scolaire qui devront rester très attractifs et solidaires. Et puis le maintien des aides du CCAS, notamment pour le chauffage ou la bourse au permis, et puis d'autres accompagnements. Favoriser l'attractivité de la ville avec le projet au château, avec le développement touristique et puis d'un restaurant. Une participation à la fête de la Noix et du Saint-Marcellin. Continuer le soutien aux commerçants en mettant en avant les bons d'achat de l'union commerciale intercommunale. Continuer le soutien pour les fêtes de la Rosière. La mise en accessibilité des cheminements piétons. Donc continuer à les développer et à travailler autour de cela. Et puis, suite aux réunions de quartier qui ont eu lieu, poursuivre un travail au niveau des différents aménagements, notamment sur le pré Chapotin ou la place du Vercors. Un maintien du soutien au tissu associatif très dense de la ville, donc continuer nos subventions, les soutenir par nos subventions, un accompagnement, continuer à avoir un accompagnement fort pour les fêtes de la Rosière, mettre à disposition les locaux et le matériel, et puis continuer à leur mettre à disposition l'agenda mensuel pour communiquer sur tous les événements. Donc aujourd'hui, pour la projection de ce budget, nous sommes sur un budget total de 8 543 660 qui se départage de la manière suivante. Donc pour le fonctionnement, un équilibre entre dépenses et recettes à 5 440 000 et pour l'investissement à 3 103 660. Donc si on décortique un petit peu sur les dépenses et sur le comparatif entre 2023 et la projection 2024, donc sur les charges à caractère général, on est sur pour 2024 à 1 620 420. En tenant compte d'une augmentation du budget de l'énergie qui est quand même forte, on a une hausse de 185 000 euros. Une augmentation du contrat assurance, où là on projette d'avoir une augmentation de 25 000 euros. Et puis au niveau de la taxe foncière, une régularisation de l'ancienne régie à 27 000 euros. Pour les charges de personnel, donc une projection à 2 560 550, en tenant compte du recrutement de deux animateurs à raison de 8 heures par semaine pour la pause méridienne, avec une augmentation, en tenant compte de l'augmentation de la fréquentation. On attend plus de 300 enfants chaque jour, enfin je crois qu'on y est. Voilà. Une ATSEM pour la sixième classe, voilà, qui sera reconduite pour septembre 2024. La prise en compte sur une année complète des évolutions du SMIC et du point d'indice. Et le maintien et l'amélioration des avantages sociaux pour les agents.
Juste quand même faire un petit focus sur la charge de personnel. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment tout le travail qui a été mené par les services. On a un budget 2024 qui s'annonce à l'équivalent de 2023. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'optimisation au maximum, et c'est aussi certains investissements qui nous permettent, qui vont nous permettre aujourd'hui d'avoir moins de fonctionnement et de diminuer cette charge-là. Donc il y a vraiment un effort qui est fait de rationaliser ce travail, et ça je voulais féliciter les services là-dessus. On va en profiter encore.
Pour les charges de personnel, oui, alors je tenais quand même à dire que effectivement, donc ce que moi je... mes interventions, c'est pas ce soir pour, au niveau du budget, ce ne sont pas des interventions personnelles, ce sont des interventions qui sont un travail collectif des élus de la liste écologie, démocratie, solidarité. Donc moi je m'appuie sur effectivement donc les interventions de mes colistiers. Alors au niveau des charges du personnel, donc ils s'interrogent sur le fait que vous évoquez une maîtrise des charges personnelles, mais en annonçant l'emploi de 3 contractuels à 27 heures, là, donc qu'on va voter, et puis avec les mesures gouvernementales d'augmentation des salaires en 2024, l'augmentation des 5 points d'indice et la revalorisation de certaines grilles, comment pouvez-vous expliquer donc que vous allez maîtriser les charges du personnel?
Bah, tout simplement parce qu'on n'a pas remplacé, on remplace plus les départs à la retraite. Donc on a eu ça, et puis après on a eu la mise en place du PEDT qui nous a permis aussi d'optimiser les horaires au niveau des agents, de maintenir voilà des contrats de travail qui soient optimisés. Donc du coup on en arrive à justement maintenir et équilibrer ce budget au niveau des charges de personnel. Donc c'est tout un jeu d'équilibre, il n'y a pas de surprise. Vous voyez bien qu'à chaque fois quand on met à jour le tableau des emplois, on essaie d'optimiser chaque emploi, chaque grade, tout en tenant compte de l'évolution de chaque agent.
Donc il n'y a pas de... D'ailleurs, j'avais demandé le tableau des emplois et on ne me l'a pas donné.
Comment ?
J'avais demandé par mail le tableau des emplois et donc je n'ai pas eu de réponse.
Après, on vous fera une réponse. On ne peut pas vous la faire à l'instant T, vu la charge de travail des services. Mais
donc, vous dites que vous n'avez pas remplacé les départs à la retraite. Ça fait combien en 2023 de...
Ben, on vous répondra. Si ça fait partie d'autres questions, on vous fera quelque chose de détaillé qui vous rassurera très certainement.
Et pour les charges aussi au niveau du budget en fonctionnement, alors certains se posent la question que comment se justifie une augmentation de 70% des fluides alors que les prévisions ont bien sûr qu'il y a une augmentation, mais elle est apparemment ce serait autour de 10% de l'augmentation d'électricité et est-ce que là, vous pouvez m'expliquer ?
Je vous rappelle quand même que nous sommes une collectivité locale. Alors, et du coup, l'électricité, ce n'est pas 10%, c'est 110%.
110%, d'accord.
Donc ce qui représente pour la commune de Vinay, 185 000 euros.
Donc c'est comme ça que
d'augmentation.
Vous justifiez l'augmentation des...
Oui, parce qu'on n'est pas, des particuliers avec le tarif régulé. Donc, nous, c'est 110%.
Parce que là, vous aviez dit qu'il y avait un tarif régulier.
Ah non, chez les particuliers, oui.
Jusqu'à
cette année.
Cette année.
Nous, on était protégés. On était protégés, c'était pas un tarif régulier, on était protégés parce qu'on avait fait un bon achat dans les années antérieures avec un contrat qui durait une année de plus que les autres. Donc, ça nous a protégés sur 2023, contrairement à d'autres collectivités. Par contre, 2024, on a dû refaire des achats avec le groupement de commande qui était le 38. Et là, par contre, effectivement, l'achat est moins favorable. On est à 110%, ce qui est moindre mal par rapport à ce qui a pu se passer en 2023 pour certaines collectivités, qui avaient du 450%, voire du 500%. Donc là, aujourd'hui, on est plus. Mais c'est 185 000 euros de dépenses supplémentaires pour la commune de Vinay, en ayant prévu, en ayant investi. Alors ça, je n'avais pas prévu de le dire maintenant, mais je vais le dire maintenant. On a investi 450 000 euros sur le remplacement de nos équipements électriques, avec bien sûr l'aide du fonds vert à hauteur de 187 000, ce qui nous a fait un reste à charge à 218 000 euros. Parce que l'intérêt aussi des fois d'aller vite, c'est d'être les premiers. On a vu l'information que le fonds vert allait sortir, parce que c'est les gens qu'on avait rencontrés avec le directeur à Paris, qui nous avaient expliqué qu'ils allaient lancer le fonds vert très rapidement et qu'il fallait qu'on prépare nos dossiers. Donc on a fait nos dossiers tout de suite. Renault a mené le dossier dessus. On a donc lancé l'investissement de remplacement total. Et on est une des rares communes à l'avoir fait 100% du parc de l'éclairage public en LED pour 450 000, 218 000 de reste à charge en ayant enlevé le fonds vert. Et si on ne l'avait pas fait, on aurait encore un surcoût d'électricité de plus de 70 000 euros. Donc ça ne serait pas 185, mais 255. Ce qui veut dire qu'on a un retour sur investissement à 3 ans. Dans 3 ans, on aura amorti ce qu'on a investi. Donc c'était, à mon avis, une opportunité à saisir. On l'a saisi, mais malgré tout, le coût de l'énergie, effectivement, c'est 185 000 euros pour la commune de Vinay. Et grâce, parce qu'on a fait l'investissement avant, sinon ce serait 270 000 plutôt.
On n'a pas félicité Renault pour son bon travail.
C'est vrai, mais parce que ça vient après, normalement.
Mais je rebondis et je remercie un de nos agents qui est Amaury et qui justement a été recruté pour faire tout ce travail au niveau des économies d'énergie. Donc des recherches, encore des recherches, un travail intense avec Renault. Il n'est pas là ce soir pour nous donner un peu plus de détails, mais je pense que la prochaine fois, ce serait bien qu'il soit là pour montrer un petit peu et mettre en avant tout son travail. Mais on est obligé de le dire. Mais on est obligé. Là, à Maurice, je suis obligée de le remercier parce qu'il nous aide à faire des économies. Allez, on continue. Donc sur les atténuations de produits, donc là, une projection qui ne va pas changer sur le fonds de péréquation intercommunale à hauteur de 10 000 euros. Sur le virement à la section d'investissement, pour le moment, aucun chiffre, car le virement à la section d'investissement sera prévu avec le budget supplémentaire et la reprise des résultats après le vote du compte administratif qui aura lieu au printemps,
début mars.
Au niveau des autres charges de gestion courante, on sera à 770 240 en prenant compte des indemnités avec l'augmentation du point d'indice sur une année complète, la cotisation au SDIS à hauteur de 110 000 euros, la subvention aux associations, les subventions aux associations à hauteur de 180 000 euros. Donc là, on est sur une stabilisation des subventions. Le maintien de la subvention au CCAS à hauteur de 230 000 euros.
Excusez-moi, au niveau du maintien de la subvention, est-ce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de problèmes pour beaucoup de familles, etc. Est-ce que le fait juste de... Peut-être vous n'avez pas prévu d'augmenter ce...
Le conseil d'administration du CSAS a défini son budget. Pour l'instant, les demandes sont. On remplit les demandes. Et s'il y a besoin, il est bien entendu que le CSAS fera appel et on votera une subvention complémentaire. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire.
Et puis, il y a tout un travail qui est fait en lien avec le département qui appuie également et aide le CSAS dans ses actions. Et puis on termine par la participation à l'école privée, qui reste, je le rappelle, une obligation de participation pour les enfants vinois à hauteur de 52 000 euros. Au niveau des charges financières, une projection à 113 790 euros. On passe aux dotations aux provisions à hauteur de 15 000 euros. Et puis les opérations d'ordre entre sections à hauteur de 350 000 euros. Qui là sont donc les dotations aux amortissements. On arrive donc sur un total des dépenses de fonctionnement qui serait à 5 440 000 euros.
Ce qui fait une augmentation du budget de fonctionnement de 4%. Mais si on sort le surcoût de l'énergie que je vous disais qui était à 185 000, ce qui fait 2,4% sur l'ensemble des autres postes. Donc je pense qu'aujourd'hui, je vous invite à lire la presse sur les prochains budgets qui seront votés dans les communes au mois de mars, je pense qu'on aura, on pourra s'enorgueillir quand même, une fois de plus, de, d'avoir maîtrisé les dépenses à hauteur de 4%, énergie compris, puisqu'on va plutôt être, de ce que j'ai un peu comme l'info, en général, ça va plutôt tourner autour de 7 à 8% facilement.
5 apparemment.
Pardon ?
Il est annoncé 5.
Oui, mais enfin, 5 dans le hors énergie. Énergie. Oui, voilà. Voilà. On sera à 2,4 nous hors énergie et 4 avec énergie. Voilà, donc on est vraiment. Voilà. Donc,
mais on se félicite.
On se félicite, voilà.
On se demande pourquoi on est là.
Non, vous êtes là, c'est justement parce que c'est tout ce travail qui est fait en commission tout le long de l'année qui nous permet d'arriver à faire ça. Je ne suis pas d'accord. Non, donc non, là, mais, c'est justement parce que non, tout le travail qui est fait tout au long de l'année, ça permet de faire ça, ça permet de faire des choix, de faire des orientations.
Vous ne faites aucune erreur, il n'y a jamais rien, c'est formidable.
Je n'ai pas dit ça non plus, j'ai dit qu'on avait maîtrisé la dépense. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur.
Et puis, j'aimerais bien vous voir un peu plus aux commissions. Ce serait bien, on pourrait débattre de beaucoup de sujets lors des commissions.
Oui, mais je suis toute seule au niveau de la liste. Donc, si je vais à toutes les commissions, ben, je crois que je...
Donc, on continue par l'état de la dette.
Je termine, madame. J'ai dit que je suis la seule de la liste. Donc, effectivement, si je vais à toutes les commissions, je crois que je passe ma semaine à la mairie. C'est peut-être pas mal. Ah,
mais hein, c'est vous qui, nous avez, qui venez de dire qu'on demande ce qu'on fait là. Donc, je vous dis que c'est travailler en commission. Et effectivement, oui, oui. Le conseil municipal...
Mais c'est quand même le conseil municipal qui est quand même le lieu. C'est pas les commissions. Hein, c'est
oui,
les commissions.
C'est la tribune.
Et voilà. C'est... Ah bon ? D'accord. Le conseil, c'est quand même le conseil municipal qui est délibératif
bien
et c'est où il y a les discussions.
Mais parce qu'il y a du tout travail avant.
Bon.
Donc au niveau de l'encours de la dette au 31 décembre 2023, on est à un peu plus de 5 millions d'euros. Au début de l'exercice 2023, la commune a emprunté 1,3 million afin de financer l'acquisition du château Montvinet. Et l'annuité 2024 sera de 596 729 euros. Et elle regroupe le remboursement du capital et des intérêts. On continue avec les recettes. Donc sur les produits de services, une projection pour 2024 à hauteur de 478 500, en tenant compte des recettes périscolaires avec la participation des familles à hauteur de 170 000 euros et la participation de la CAF à hauteur de 50 000 euros. Et puis une refacturation des moyens de la ville mis à disposition de Vinet Chaleur Bois, du CCAS et de la résidence autonomie. Au niveau de la fiscalité locale, des impôts et taxes, une hypothèse d'augmentation des bases, comme on l'a dit, à plus 3% en 2024, ce qui se départagerait à hauteur de 2 381 620 pour la fiscalité locale et pour les impôts et taxes à hauteur de 1 192 920. Pour les dotations, subventions et participations, une légère hausse des recettes à hauteur de 1 164 490 euros. Pour les autres produits de gestion courante, environ 165 000 euros en prenant en compte les revenus des immeubles avec la location des locaux pour 140 000 euros. Au niveau des produits financiers, 10 000 euros qui proviendraient des dividendes de GEG. Pour les produits exceptionnels, on passe. L'atténuation de charges, 45 000 euros avec le remboursement de la rémunération au personnel. Et puis les opérations d'ordre entre sections, pour 2 450 euros, ce qui laisse un total des recettes de fonctionnement à 5 440 000. Donc, toujours pour notre partie investissement sur les dépenses, les grands projets pour 2024, c'est l'acquisition de matériel, de logiciels pour les services avec des engins de manutention, afin de faciliter le travail de nos agents. De l'acquisition foncière, comme l'ancien CER, à hauteur de 65 000 euros. Des travaux sur les bâtiments communaux avec la fin des travaux du gymnase. Les études qui seront lancées pour le château. La construction de l'école. Le chauffage de la salle des fêtes. Des travaux d'aménagement pour les bureaux du CCAS qui seront au deuxième étage de la mairie et des travaux d'aménagement pour toujours nos locaux, notre projet d'accueil de médecins. Des travaux d'économie d'énergie pour les bâtiments et espaces publics, avec la mise en place de la gestion technique GTC, j'ai oublié, centralisée sur les bâtiments communaux, le remplacement des éclairages par les LED, et puis, comme on l'a dit, des améliorations sur la piscine. On continue également avec une continuité sur les travaux de voirie, avec l'aménagement du parking de l'ancien CER, la démolition du bâtiment des Augustins et l'aménagement d'une place, des projets de cheminement piéton entre l'EHPAD et le quartier du Pré-Chapotin, le projet du parking avec la démolition du bâtiment Thalia Giraud, la fin des travaux au niveau des éclairages publics et puis des études pour une voie verte entre la gare et la zone d'élevée. Et puis le projet de déjà aménager les voiries d'accès à la future gendarmerie. Donc, pour les dépenses d'investissement, on arrive à un équilibre à 3 103 660 en prenant en compte les dotations à hauteur de 435 000 euros, nos subventions avec une projection à hauteur de 1 257 876 euros, nos produits de cession pour 1 60 184 euros, des opérations d'ordre entre sections pour 350 000 euros, et puis des petites opérations d'ordre à l'intérieur de sections pour 600 euros. Si on détaille un petit peu, on retrouve donc nos acquisitions pour 187 500 euros, les réserves foncières pour 100 000 euros, les travaux de la piscine que l'on projettera à hauteur de 58 000 euros, les équipements sportifs pour les différents besoins à hauteur de 90 000 euros, différents petits travaux sur les écoles pour 11 000, 2 000 et 1 000 euros. Pour les autres bâtiments communaux, donc tous les travaux que l'on a énumérés précédemment pour 623 500 euros. Les études du château pour 150 000 euros. Quelques travaux prévus sur le cimetière à hauteur de 26 000 euros. Un gros plan voirie à hauteur de 796 000 euros. Encore quelques études urbaines pour 15 600 euros. On retrouve notre vidéoprotection pour 85 000 euros. Les fins de travaux du gymnase pour 50 000 euros. Et puis le projet école pour 400 000 euros. Ce qui fait un total également des dépenses sur les opérations financières de 508 050 euros. On retrouve les dotations pour 30 000 euros. Un remboursement d'emprunt à hauteur de 475 000 euros et puis les ordres d'ordre entre sections pour 2 450 euros et nos petites opérations patrimoniales pour 600 euros. Pour les recettes d'investissement, donc si on les énumère, pour les acquisitions, on serait donc à hauteur de 35 000 euros. Autres bâtiments communaux pour 13 500 euros. On retrouve donc le château pour 40 000 euros d'études. Les voiries, 125 888 euros. La vidéoprotection pour 43 488 euros. Et puis une subvention espérée pour l'école à hauteur de 1 million d'euros. On retrouve de l'autre côté les dotations à hauteur de 435 000 euros, pas d'emprunt, opération d'ordre entre sections à hauteur de 350 000 euros, les produits de cession pour 1 060 184 euros et nos opérations patrimoniales à 600 euros.
Pour les produits de cession, c'est quelle vente ? 1 million 60 184 euros.
Pour les, dedans, il y a plusieurs choses. Il y a le terrain, qui va être vendu à la gendarmerie, qu'on n'a pas pu encore faire encore la vente. Il y a probablement les anciennes arcades, enfin les bâtiments des arcades, puisqu'il n'a plus lieu d'être, donc on avait dit qu'on s'en séparait. Il y a l'ancienne caserne, enfin l'ancien bloc de logement, l'ancienne caserne des pompiers, qui est pareil, qui est prévu d'être à la vente également, sur lequel il y a des pistes qui sont en route, et il y aurait éventuellement la réflexion sur le tenement qui est situé place du Vercors, que la commune avait acheté il y a déjà très longtemps et qui est toujours à l'abandon et sur lequel il y a peut-être des propositions qui sont faites. Voilà. C'est un ensemble de petites ventes comme ça de patrimoine qui n'est pas utilisé aujourd'hui, qui n'est plus utilisé par le fait du changement de destination.
On en a fini avec le détail de ce prochain budget, donc je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires. On a essayé de le détailler au mieux, en adéquation avec le débat d'orientation budgétaire. Et on souligne, comme on l'a dit, une hausse de ce budget de 4%. Mais qui reste équilibré par rapport à l'inflation actuelle.
On peut passer au budget annexe de Villers-Charlebois ou
moi, si je voulais juste...
Vous ne passez pas au vote d'abord.
Oui, on peut voter.
Non, mais je ne sais pas. Hein,
non, je voulais... Bon, on peut voter. Oui.
Mais moi, je voulais aussi encore intervenir. Je suis désolée. Au niveau de... J'ai un peu regardé le détail. Et par exemple, frais de nettoyage des locaux en 628.3, ça passe de 10 000 à 45 000. Vous pouvez expliquer pourquoi? C'est quoi? Il y a des nouveaux...
J'ai pas... Vous pouvez répéter?
Les frais de nettoyage.
Frais de nettoyage.
Oui.
Ils passent de 10 000 à 45 000.
Oui. Là, c'est pareil, c'est dommage, parce que les commissions sont faites là pour ça, parce que tous les détails sont donnés. Donc, je suis désolé, mais là, c'est un peu embêtant.
Donc, ça veut dire que si on ne va pas en commission, on ne peut pas avoir de questions.
C'est embêtant, oui. Mais alors, les frais de nettoyage, c'est une réflexion qu'on se mène. C'est une somme qu'on met en prévision dans le budget pour se dire comment on va traiter nos nouveaux équipements pour qu'ils aient les bonnes notions d'entretien. Est-ce qu'on les traite toujours en régie ou est-ce qu'on passe peut-être par une extériorisation? Mais pour l'instant, on prévoit les sommes au budget et la réflexion va être menée. Voilà. Donc c'était ça la réflexion, c'est ce qui a été vu en commission et expliqué en commission. Enfin, je pense que ceux qui étaient présents à la commission peuvent me confirmer.
C'est vrai, c'était bien ça.
Attention, chaque chapitre est en indicatif, ce sont des projections. On essaie d'optimiser au mieux le prochain budget. Donc, ce n'est pas affermi. Hein. On ne parle pas de somme affermie.
J'ai compris.
On est dans de la projection, de l'indicatif.
J'avais compris que c'était une projection. Hein.
Oui, non, mais je vous le rappelle. Voilà. Là, sur cette hausse-là, notamment, on en a parlé. C'est une étude, une réflexion que l'on mène. Après, on verra et on ajustera.
Alors, j'avais deux autres questions avant le vote. Donc, au niveau des... Alors, c'est une question annexe. La construction de la gendarmerie de Vinès, ce sont les impôts des Vinois qui...
Ah non. Je vous invite quand même à suivre les dossiers. Hein. Je vous rappelle quand même que la gendarmerie de Vinès est construite par un bailleur qui va le louer à l'État. Et la commune de Vinès vend le terrain, ce qui le fait exceptionnel d'ailleurs, parce que la plupart des communes ont donné les terrains et nous, on a réussi à le vendre. Et du coup, ça, non seulement ça ne va rien coûter aux Vinois, mais ça va même leur apporter de l'argent et on va même avoir la taxe foncière et la taxe d'aménagement.
Ok. Non, mais c'était une question. Voilà,
mais c'est le sujet de la gendarmerie, on le traite depuis quand même 3 ans en commission et en réunion de conseil.
Oui, mais moi, je ne suis pas là depuis 3 ans.
Oui. Et puis, je suis désolé, mais votre groupe est là depuis 3 ans.
Oh, écoutez, bon, c'est bon, là, ça va. Là,
ah
ça
oui,
va.
Mais attendez.
Non, mais arrêtez. La démocratie. À chaque fois que j'interviens, c'est incroyable, c'est insupportable.
Allez,
ne supportez
votre
rien,
deuxième
aucune
question.
Contradiction. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui...
C'est vous qui nous dites que vous affirmez des choses alors qu'on a...
J'ai
on
pas
a,
affirmé,
on travaille
je vous ai demandé une question. Je vous ai posé
votre deuxième
une question.
Question.
Je
deuxième...
vous ai posé une question,
oui,
j'ai
votre
pas
deuxième
affirmé.
Question, s'il vous plaît.
Non, mais ça va, ça commence
votre
à bien faire.
Votre deuxième question, s'il vous plaît.
Oui, ben je me pose quand j'ai envie.
Bon, alors on passe au vote. Donc, écoutez, je suis désolé.
Mais... Non, mais ça va, ça commence à bien faire, bon. Il y en a marre, là.
Votre deuxième question, donc, ou on passe au vote?
Simplement, donc, nous, au niveau donc, du budget, du budget donc, de la ville, on trouve qu'effectivement, ce budget qui porte la vie sociale nous semble insuffisant. Par exemple, la volonté de construire des places de parking, on a vu qu'il y avait deux parkings qui allaient être construits. Pour nous, donc, il faudrait aussi réfléchir à faciliter les transports doux, hein, moins onéreux pour les habitants et respectueux de l'environnement. Voilà, puisqu'en fait, on ne va pas non plus bétonner tout le centre-ville de Vinay. Le recrutement d'un service civique, alors là, je vais vous faire un compliment, est une bonne chose sur le gaspillage alimentaire. On pourrait cependant élargir sa mission à l'impact global de ce que nous mangeons, hein, local, importé, viande, etc., sur le réchauffement climatique, et avoir une réflexion sur la cantine avec la loi Egalim, proposer aussi des menus végétariens. Voilà.
Merci.
Mais je sais que je parle pour rien dire, mais c'est pas grave.
Faites pas de réflexion, j'en prends note. Là, on est sur la partie budgétaire, donc j'en prends note. Il y a mes adjoints qui sont, Vanessa qui est sur la partie cantine, je pense, a déjà élaboré, parlé à plusieurs fois, je pense, en commission sur la loi Egalim, etc. Mais on prend note, sur la culture, on prend note, on a là-dessus, mais c'est pas, on parle du budget, donc là, je prends note de votre réflexion. J'ai dit que j'étais contre ni pour. J'ai fait aucun commentaire.
Moi, je pense que je félicite Madame Vieuguet parce qu'on l'avait pas félicitée ce soir non plus.
Non, merci. J'ai pas besoin de la féliciter.
Pour ce qui est de notre groupe, même si on est un petit peu inquiet par rapport aux différents investissements qui vont être faits, on va voter pour ce budget parce que on a envie aussi de vous montrer qu'on fait confiance. Et que l'on croit, même si on n'est pas tout à fait convaincu.
J'en remercie. Et d'ailleurs, on va travailler dans les prochains mois là-dessus pour expliquer, travailler dans la construction de ce fameux projet qui inquiète tout le monde. Mais c'est
et puis vous me remercierez aussi, vous me féliciterez aussi.
Voilà. J'ai à le faire. J'ai te remercier. Je remercie.
Ah bon.
Et on y est arrivé.
Ben, nous, on va s'abstenir.
Bon, il y a d'autres questions ou je passe au vote, parce que je vois que vous avez déjà pratiquement. Donc, je passe au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, je vous remercie pour cette confiance qui nous est faite et à nous maintenant, dans les prochains mois, à travailler avec vous tous ensemble pour qu'on puisse mettre en place ce budget qui est volontariste. Et croyez-moi, il n'est pas fait à la légère, c'est une réflexion qu'on mène au quotidien avec mes collègues pour qu'on puisse tenir les équilibres. Ça demande effectivement par certains moments d'aller très vite, puisqu'on l'a vu sur la partie énergie, si on n'avait pas réagi au quart de tour, on n'aurait sûrement pas eu, parce qu'on est une des rares communes à avoir eu autant sur le fond vert, parce qu'on était prêt au bon moment, puisqu'on a eu 120 000 au départ, hein. 125 000 sur le premier chèque qui est dans mon bureau, encore, vous pouvez le voir. C'est le faux, hein, sur l'autre. Et on a eu une rallonge parce que comme on avait été prêt et on avait lancé des investissements lourds rapidement, on a eu une rallonge de 146 000. Ouais, en tout, ça fait 147 000. Donc, c'est quand même intéressant. C'était la délibération d'après.
On continue. On continue avec la délibération 2023-79 qui va donc traiter sur la reprise des provisions des exercices antérieurs sur le budget Vinay Chaleur-Bois. Donc aujourd'hui, une reprise des provisions pour risques et charges afin de permettre les opérations de facturation annuelle des moyens et supports mis à disposition pour le budget principal. Donc, le détail est présenté dans le tableau que vous voyez. Un montant des provisions au 1er janvier 2020 à 479 745 euros. Un montant des reprises de provisions à 179 745 euros pour un montant des provisions au 31 décembre 2019 à hauteur de 300 000 euros. Donc, Guy, si tu veux détailler.
Pour l'inscription du chapitre. Oui, alors. Il s'agit principalement d'une reprise de provisions, parce qu'il y a des provisions importantes qui avaient été faites au moment de l'ancienne régie d'électricité qui est existante. Et là, aujourd'hui, cette reprise de provisions permet de venir nous refacturer, ce qu'on verra après dans la décision modificative, les charges qui étaient portées par le budget principal alors qu'elles étaient réalisées par Vinet Chaleur Bois, qui aurait dû être porté par Vinet Chaleur Bois, et du coup sans gréver le budget. Donc on vient piocher dans ces provisions-là, ça nous permet de refaire la refacturation qu'on avait déjà évoquée lors du précédent conseil municipal, avec la convention qui le permet. Et aujourd'hui, voilà, donc on utilise ces provisions pour éviter de toucher le budget actuel de Vinet Chaleur Bois et de venir le mettre en déficit.
Des questions sur cette délibération de reprise de résultats? Si je mets au vote, qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Donc on continue par la délibération 2023-80. Donc comme pour le budget principal, une décision modificative au budget Vinet Chaleur Bois. Donc on rappelle qu'après le vote du budget primitif, il est important d'ajuster les crédits nécessaires au fonctionnement des services et compléter les crédits des opérations d'investissement en fonction de l'état de leur avancement. La décision modificative va s'équilibrer de la manière suivante, en prenant en compte sur la partie fonctionnement en dépenses et en recettes un équilibre à 179 745 euros. Les ajustements de crédits vont se décomposer de la manière suivante, avec un remboursement de frais à la collectivité de rattachement à hauteur de 74 745 euros pour l'augmentation de crédit, les charges à caractère général à hauteur de 74 745 euros, le personnel affecté par la collectivité de rattachement pour ce chapitre 105 000 euros, idem pour les charges de personnel et frais assimilés, ce qui nous fait un total et un réajustement de 179 745 euros.
Des questions sur cette décision budgétaire numéro 1 sur le budget annexe 2023 de Vinet Chaleur Bois. Vos votes. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération 81, il y avait des petites modifications, donc elle était posée sur votre table à l'arrivée. Peut-être préciser ce qu'il y avait qui a changé.
Oui, vous le retrouverez sur la délibération. On n'a pas ressorti toute la maquette, mais elle sera retransmise avec le budget. Il y avait simplement une erreur. On avait trop prévu dans l'écriture du budget de dépenses imprévues qui sont plafonnées à 7,5% du budget en investissement. Donc on a réparti la dépense avec 11 500 euros sur la section dépenses imprévues, qui est le maximum, et 18 500 euros qu'on a mis sur immobilisation en cours, qui est une opération, les opérations d'investissement.
Ça ne change rien le montant total du budget, mais ça joue, c'est vrai. C'est...
Donc, pareil que pour le budget principal, on ouvre cette délibération en vous projetant ce que l'on souhaiterait pour 2024, à savoir pour la partie fonctionnement pour Vinet Chaleur Bois, des dépenses à hauteur de 715 000 euros, équilibré avec le même montant pour les recettes et pour la partie investissement à hauteur de 255 000 euros, ce qui fera un budget total de 970 090 euros. Donc, si on détaille par chapitre, sur le chapitre des charges à caractère général pour les dépenses, on serait pour 2024 à 446 260 euros en prenant en compte, comme on n'a pas arrêté de le répéter, l'augmentation du coût de l'électricité. Ce que l'on projette, ce serait une augmentation de 57 000 euros. Pour les charges de personnel, on prend en compte la refacturation complète des frais supportés par le budget de la ville, donc ce qui ferait des dépenses revues à la hausse pour 30 000 euros. Des charges financières projetées à 34 820 euros. Les dépenses imprévues ne changent pas pour 8 000 euros. Pour le moment, pas de virement à la section d'investissement et des opérations d'ordre entre sections pour 195 000 euros. Là aussi, en prenant en compte les dotations aux amortissements, ce qui ferait un total des dépenses à 715 080 euros. Pour les recettes des produits de service, pour le chapitre produits de service à hauteur de 620 000 euros pour 2024, là aussi, en mettant en avant l'augmentation des recettes suite au raccordement du bâtiment périscolaire. Au niveau des atténuations de charges, 25 000 euros qui se référaient à une variation des stocks de fioul. Et pour les opérations d'ordre entre sections, ce sera à hauteur de 70 000 euros environ, en prenant en compte les amortissements de subventions d'investissement, ce qui laisserait un total à hauteur de 715 080 euros également. Donc on vous a remis le tableau à l'équilibre. On détaille un petit peu plus en dessous avec la partie remboursement du capital de la dette pour 100 000 euros, les immobilisations incorporelles pour 16 730 euros, pareil, immobilisation corporelle pour 38 200 euros, les opérations d'ordre entre sections pour 70 080 euros. Et puis, on met en avant donc le petit changement qu'il y a eu sur les dépenses imprévues à hauteur de 11 500 euros et les immobilisations en cours pour 18 500 euros, ce qui nous laisse un total à 255 010 euros. Et puis, de l'autre côté, pour les recettes, pas d'emprunt. Au niveau des subventions, 60 000 euros et puis les opérations d'ordre entre sections pour 195 000 euros pour un même total des dépenses d'investissement à 255 010 euros. Ce que l'on souhaiterait souligner pour la partie investissement pour les principales opérations de 2024, c'est poursuivre le développement du réseau avec le raccordement des bâtiments suivants. Le bâtiment de la chapelle et la reprise du réseau de la salle des fêtes. Le château Montvinet et ses annexes avec l'église, avec une possibilité. Rappelle-moi, c'est EEG. Avec le certificat d'économie d'énergie et puis la subvention de l'ADEME à hauteur de 50%. Et puis le raccordement de la nouvelle école. L'installation d'une production d'électricité avec les panneaux photovoltaïques sur la toiture de la chaufferie pour de l'autoconsommation. Donc ce serait vraiment de développer déjà une autonomie sur certains bâtiments.
Des questions sur le budget Vinet-Chalarbois ? Donc là, je vais continuer, je vais féliciter notre directeur Amaury Gaude, qui est notre jeune directeur, mais qui fait un travail acharné sur l'économie d'énergie, sur toutes les pistes possibles. Donc là, on travaille sur une première phase de panneaux photovoltaïques sur la chaufferie pour essayer de couvrir quasiment 100% des besoins en période d'été en électricité et de l'ordre de 20% en période hivernale. Donc ça, c'est une des phases, qui est une première phase qui est mise en place, avec d'autres, bien sûr, qui arrivent, mais sur cette partie-là, tout le travail qui est fait aussi sur l'optimisation du réseau, puisqu'il y a un gros travail qui est fait en collaboration avec notre gestionnaire IDEX, pour pouvoir optimiser et avoir le maximum d'économies sur le fonctionnement du réseau. S'il n'y a pas de questions, je propose de mettre au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. La délibération 2023-82, donc c'est la définition des zones d'accélération pour le développement des énergies renouvelables, adoption de la cartographie municipale. Là aussi, c'est une petite boutade de nos législateurs qui ont délibéré rapidement et nous donné des délais très court pour réaliser ce petit challenge. Donc je vais laisser Renaud le présenter.
Donc cette délibération se rapporte à la loi 2023-175 du 10 mars 2023, donc concernant les accélérations de production d'énergie renouvelable, on appelle ça la loi APER aussi. Et elle nous demande de définir de manière cartographique des zones où on peut, où, disons, il y aura facilité à développer certaines énergies renouvelables qui sont définies à la parcelle. Et nous avons rempli les cartes après la... Mince, excusez-moi. La réunion publique qui s'est tenue le 6 décembre, où vous étiez presque tous là, je vous en remercie, et puisque c'est la soirée, je vous en félicite. Et donc, nous avons déterminé des cartes qui, prioritairement, donnent des zones sur les trois énergies renouvelables que sont le solaire thermique, l'hydroélectricité et la biomasse, évidemment, avec notre chaufferie au bois déchiqueté. Nous avons écarté simplement la possibilité, sans l'empêcher, au niveau géothermie, puisque nous n'avons pas de source de chaleur géothermique à proximité, à notre connaissance, et l'éolien que nous estimons aussi pas forcément adapté sur notre territoire. Donc, il vous est proposé de valider les cartes qui sont en annexe à partir de la page 30. Avez-vous des questions?
Alors, je pose une question, c'est bien ça. Ça va tout à fait dans un bon sens. Mais que va-t-il se passer après?
En fait, c'est un diagnostic qui est fait à l'échelle... Alors, j'essaye de vous dire ce que j'ai compris. Hein. Je ne dis pas que forcément, mais c'est ce que j'ai pu... On retirait un peu des différentes recherches et des interrogations auprès des services de la préfecture, c'est qu'aujourd'hui, c'est un diagnostic à l'échelle nationale qui est fait pour essayer de connaître l'éventuelle possibilité de produire de l'énergie propre pour voir, en gros, ce qui va être permis d'échapper sur les énergies plus polluantes. Voilà. Donc, c'est un diagnostic. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est là-dessus. Bon, a priori, les infos que j'ai eues ce matin, c'est un flop complet. Puisqu'on est à moins de 50% des communes qui ont répondu au premier tableau, mais qui n'étaient pas le cartographie. Et aujourd'hui, sur la cartographie, apparemment, il y aura moins d'une 10% des communes qui vont répondre dans les délais. Donc, voilà. Donc, par contre, il est prévu que ça va sûrement revenir vers nous. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'identifier le potentiel, en gros, de la France pour son énergie propre. Voilà, c'est ça.
En fait, on met tout dans les placards, on attend.
Bah, oui, c'est à peu près ça, parce qu'aujourd'hui, en gros, rien n'est, même les zones qu'on ne met pas, ça n'interdit pas de le faire. C'est juste qu'aujourd'hui, on dit, voilà, il y a un potentiel. En fait, c'est pour essayer de cibler le potentiel d'énergie renouvelable en France. C'est ça, la démarche.
D'autant plus que même les zones qui sont identifiées, on ne sait pas exactement encore comment on va aider à faciliter les choses.
Oui, oui. Là, c'est un énarque. Hein. Pour moi, il y a un énarque qui a penché sur la question, mais qui a dû pas avoir le temps d'aller au bout de sa réflexion, parce que c'est...
C'est un énarque qui s'ennuyait dans son bureau et qui a dit...
Non, mais la cause, elle est bonne et la réflexion, elle est bonne. Simplement, ça manque un peu. C'est pas abouti, quoi. Ça me donne le sentiment de quelque chose de pas abouti. C'est ce que j'ai dit au préfet. Je dis, on va répondre, mais pas l'impression qu'aujourd'hui, ça apporte vraiment beaucoup de choses. Mais bon, ça a au moins le mérite de lancer la démarche. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y aurait, il y aurait un deuxième tour qui reviendrait avec peut-être plus de... Bon, ça a le mérite de lancer. Je pense aujourd'hui, dans la période qu'on est, c'est bien de se poser ce genre de questions. Ça a le mérite de démarrer. C'est pas parfait, mais ça commence. Voilà. Donc, et ça nous permet de voir commencer à nous diriger un petit peu.
L'idée est bonne, mais après, faudrait qu'il y ait quelque chose derrière.
C'est un bon début.
Ça a au moins le mérite, effectivement, de montrer les difficultés aujourd'hui au niveau environnemental, le réchauffement climatique, etc. Alors, peut-être effectivement qu'il y a peut-être un certain nombre de municipalités qui n'en sont pas encore trop conscientes, malheureusement.
A priori, oui, ce n'est pas le cas. Bon. Mais bon, ça a le mérite de se lancer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être présent dans ce genre de démarche, il faut être vigilant. On est D'accord que ce n'est pas forcément, à mon avis, aujourd'hui bien abouti, mais ça a au moins le mérite de commencer à démarrer. Ça a le mérite d'avoir commencé à travailler un peu entre nous. Ça, on va continuer, puisque du coup, on est dans la pleine démarche. Hein. Amaury, on fera sûrement une commission spéciale là-dessus, où Amaury va vous présenter un petit peu toutes les études qu'il a commencé à réfléchir, là où on pourrait mettre du photovoltaïque sur nos bâtiments. On réfléchit, on travaille, parce que aussi on cherche aussi la aujourd'hui, juridiquement, on ne sait encore pas trop comment ça va fonctionner. Aujourd'hui, on peut faire de l'autoconsommation dans un périmètre, c'est-à-dire gros, dans un périmètre de 2 km. Aujourd'hui, on peut produire de l'électricité, par exemple, au stade, par exemple, de rugby, et la consommer à la piscine. Par contre, aujourd'hui, on ne sait pas encore trop exactement, et ça, les services, on sait là-dessus où travaille notre directeur, c'est de savoir par quel organisme on peut faire ça, parce qu'apparemment, il y a une procédure d'achat, de revente, c'est pas, et les décrets ne sont pas très clairs. Donc, il y a un travail qui est fait là-dessus, mais c'est une vraie piste, aujourd'hui, qui est à travailler. Donc, on travaille dessus, on y croit, on pense que là-dessus, il y a quelque chose à faire, mais voilà, c'est un peu long, mais ça démarche. Donc, Amaury travaille à fond dessus, sur le boulodrome, sur la chaufferie. Ben, la chaufferie, on n'a plus le carnet, parce que là, on va faire l'autoconsommation sur site, donc c'est facile. Par contre, on réfléchit sur la piscine, éventuellement, ou si on peut faire autre chose ailleurs, en allant le consommer à la piscine. Voilà, ça peut être ça. Parce que la piscine, l'intérêt, c'est qu'on a besoin d'électricité quand il fait chaud, et généralement, ailleurs, on en a un peu moins besoin. Donc, c'est voilà, ce travail-là. Donc, ça permet de lancer tout ça. Donc, c'est quand même pas inintéressant. Ça nous met un petit peu le pouce au truc. C'est bien. D'autres questions sur ce schéma? Donc, je propose de mettre au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Myriam, à nouveau, pour la création d'emplois non permanents.
Pour cette délibération, donc on va évoquer notre besoin d'animateurs sur les écoles. Donc aujourd'hui, la ville, pour l'activité du pôle éducation, jeunesse et culture, doit nécessiter le recrutement d'un ou plusieurs agents par contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Cela se ferait de la manière suivante. 3 emplois non permanents sur le grade d'adjoint technique territorial à temps non complet à raison de 27 heures hebdomadaires. Des missions qui pourront être confiées notamment sur l'animation et l'encadrement des enfants pendant les temps périscolaires avec l'encadrement des enfants pendant la pause méridienne, des travaux d'entretien ménager dans les locaux scolaires et communaux, et la participation à la préparation et à la distribution des repas en liaison froide avec l'accueil des convives. La rémunération de l'agent contractuel sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. Aujourd'hui, on a une hausse des effectifs. Je pense que Vanessa en a assez parlé. Le besoin, dans l'immédiat, serait de 2 animateurs à raison de 8 heures par semaine. Et on souhaiterait ouvrir un emploi non permanent en cas de besoin. Pourquoi ? Parce que ce serait un poste par sécurité, car on a tellement un turnover et on a tellement des augmentations au niveau des effectifs et tellement un accroissement d'activité au niveau des écoles que la ville se doit d'avoir une sécurité avec un poste d'agent selon les besoins. Si Vanessa, tu peux compléter?
Oui, je complète parce qu'il faut savoir que quand on doit remplacer une personne, soit parce qu'elle est absente pour maladie ou parce qu'elle n'occupe plus le poste, entre les publications du poste, il faut à peu près 4 mois avant de pouvoir la remplacer. Donc en ayant ce poste sous le coude qui est déjà prêt, ça nous permet voilà, de pouvoir être réactif au moment qu'on a besoin. Et ça ne dit pas qu'on en a besoin dans l'immédiat.
Oui, ça, c'est la subtilité de la fonction publique. On n'est pas comme dans le privé, on ne peut pas dire on remplace. Là, il faut ouvrir, chercher, publier. Du coup, on est obligé, si on n'anticipe pas à faire des postes vides, ben, on ne peut pas remplacer quand c'est long. C'est ça. Des questions sur cette création d'emplois non permanents? Je mets au vote. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. La délibération 2023-84, donc c'est une convention de réservation unique pour la réservation des logements sociaux et gestion des flux. Alors, je vais essayer de vous expliquer d'une manière assez simple cette proposition. En gros, aujourd'hui, on a 223 logements sociaux sur la commune de Vinay. Dans le cadre de la loi, on avait 10 logements qui étaient réservés, on va dire, sur lesquels on avait un pseudo-pouvoir de définir, lors des affectations, de donner une priorité dessus. La loi a changé et aujourd'hui, il est dit que ce n'est plus des logements ciblés, mais c'est un pourcentage qui est donné. Donc nous, de mémoire, c'est 6,43, je crois. Si j'ai bonne mémoire, ça doit être ça. 6,43, donc c'est un pourcentage. Donc aujourd'hui, on n'a plus, c'est plus l'appartement 7 du préchapotage sur lequel on a un droit, mais c'est sur les 200 demandes, on a 6% où on peut, voilà, d'une manière très impersonnelle, définir cette gestion. Donc ça, c'est la loi, pas le choix. Aujourd'hui, par contre, aujourd'hui, il y a deux possibilités qui nous ont offertes. C'est soit on garde, on prend une convention avec chaque bailleur, la commune et les bailleurs, soit on bascule cette convention à l'interco, puisqu'aujourd'hui les demandes sont déjà toutes centralisées à l'échelle de l'interco, parce que ça c'est une règle aussi, et après nous sont réinterrogés, soit on laisse l'interco signer la convention de pourcentage, du coup on n'est plus sur les 6,43, mais on est sur le pourcentage global à l'échelle de l'interco, et derrière on viendra, comme on le fait aujourd'hui, définir nos priorités par le biais des services de l'Interco, mais en sachant que nous, on fait quand même le travail, et l'Interco n'étant qu'une boîte aux lettres dans la démarche. Voilà, à peu près d'une manière synthétique, mais si vous l'avez lu, vous avez peut-être d'autres questions à me poser, donc j'essaierai, je vous écoute et je vous laisse me répondre sur cette délibération et ce projet de gestion des flux, qui est assez sympa aussi à lire.
Donc, en fait, il y a deux. Vous avez choisi donc la... La convention de réservation unique, hein, c'est ça,
Oui, enfin, on vous propose ce soir, nous, voilà. de passer...
Et l'autre solution, c'est quoi?
Ben, c'est que chaque commune délibère individuellement avec chaque bailleur.
D'accord.
Mais au final, ça change. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est pour simplifier un petit peu le flux, justement. D'autres questions sur cette délibération?
Dans cette convention de réservation unique, vous, la ville de Vinay, vous aurez quel...
Nous, on aura 6 et quelques pourcents. Voilà. Donc aujourd'hui, on pourra donner... Bon, je vous rassure, hein, aujourd'hui, ça ne marche pas déjà depuis toujours. Hein. On met des choix et après, derrière, ils ne sont pas forcément affectés. Hein. C'est les bailleurs qui gardent leur prérogative. Donc aujourd'hui, on continuera de la même manière. Après, on a aujourd'hui établi plutôt... On a plutôt essayé d'avoir un dialogue et un partenariat plus fin avec les bailleurs sociaux pour essayer de travailler d'une manière un peu plus souple, pas forcément dans le cadre législatif. D'autres questions sur cette délibération? Donc je propose qu'on mette au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Oui. Deux ou une?
Une. Je n'ai pas demandé, donc une.
D'accord. Merci.
Si Vanessa, pardon. Je m'abstiens parce que je suis contre cette décentralisation systématique. Moi, je suis pour que le maire ait entièrement les droits et que c'est à lui de décider, prendre ses responsabilités, etc. Et tout ce qui est avec la communauté de communes
c'est déjà décentralisé. Oui, c'est déjà aujourd'hui. En fait, c'est juste sur les espaces réservés sur lesquels. Mais en fait, aujourd'hui, et ça sera toujours le cas, c'est-à-dire que c'est toujours quand même le maire qui définira les priorités. Ça ne change pas.
Oui, c'est mais juste... après, comment ça va se gérer après ?
Mais de la même manière qu'aujourd'hui, de toute manière, aujourd'hui, on fait remonter aux bailleurs sur les 10 appartements en question la priorité. Mais jusqu'à maintenant, c'était simple parce que c'était le 7 du bâtiment B du Pré-Chapotin. Mais aujourd'hui, comme c'est plus affecté à des appartements, je ne vois pas aujourd'hui comment on va faire. Quelle priorité on va donner sur quoi, puisque c'est un pourcentage. Donc la loi a fait un truc. En gros, la loi a dit, là je te rejoins, en gros elle a éliminé le maire. C'est pour ça qu'aujourd'hui il n'y a plus d'intérêt de le gérer nous, autant que ça soit géré, qu'on donne. Parce qu'en fait, on va donner un pourcentage. Alors je n'ai pas à faire moi un pourcentage, je ne sais pas comment on va faire.
C'est comme ça que je l'ai analysé et c'est pour ça que je vois quoi.
Mais là par contre, c'est la loi.
On élimine encore une fois le maire sur cette affaire.
Mais par contre, ça c'est le législateur qui a choisi cette partie-là.
Oui, j'entends bien.
Mais du coup. Voilà, ça devient impersonnel. Voilà. Avant, on traitait un projet sur un appart, et là, maintenant, on va dire un pourcentage. Mmh. Donc, voilà. Et là, aujourd'hui, personne ne sait comment nous dire comment. Enfin, parce que même les bailleurs, encore une fois, ne savent pas comment ils vont le prendre. Hein. La 2023-85, c'est l'autorisation de signature des conventions définissant les modalités d'accueil des élèves pendant résidant à l'extérieur de Vidée et scolarisés dans nos groupes scolaires. Je laisse la parole.
Donc cette délibération est quasiment la copie conforme de la délibération du conseil municipal précédent, qui était pour les élèves du dispositif ULIS. Donc là, c'est pour les élèves résidant à l'extérieur de Vinay. Donc les conditions, je vais juste rappeler les conditions pour être scolarisé à Vinay et non résident sur Vinay. Donc il faut que la commune de résidence de l'enfant n'ait pas d'école ou la capacité d'accueil est insuffisante. Que l'enfant renouvelle sa scolarité dans la commune d'accueil jusqu'au terme de sa formation préélémentaire ou scolarité primaire. Que les deux parents qui travaillent et que la commune de résidence ne peut assurer ni la restauration ni la garde des enfants. Et que l'état de santé nécessite des soins réguliers et prolongés dans la commune d'accueil. Et qu'un frère ou une sœur de l'enfant sont déjà inscrits pour les mêmes raisons ci-dessous pour l'absence de la capacité de la commune de résidence. À ce jour, pour l'année 2023-2024, on aura uniquement les élèves de Quincieux qui sont au nombre de 19 élèves. Et voilà, on n'a pas d'autres enfants non-vinois à refacturer aux communes.
Des questions ? Je mets au vote. Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Toujours Vanessa pour la 2023-86.
Donc la signature de la convention du dépôt-vente du livre Vinay de Didier Jungers aux éditions Edith et moi. Donc entre la régie du Grand Séchoir, Maison du Pays de la Noix et nous, mairie de Vinay. Donc cette convention, on la prend chaque année. Il n'y a rien qui n'a changé. Donc on rappelle juste le prix qu'on refacture au Grand Séchoir, c'est 24 euros par livre. Et eux, ils peuvent vendre le livre au prix de 25 euros au public. Voilà.
Une question ? On vote pareil. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. La 2023-87, tu vas ?
Oui. Donc ça, c'est une. Il faut une dérogation pour que nos commerçants puissent ouvrir le dimanche par rapport au syndicat des commerçants. Donc il y a 12 dates qui sont prévues. Le 7 janvier 2024, le 4 février, le 23 juin, le 14 juillet, le 25 août, le 6 octobre, le 13 octobre, le 24 novembre. Le 8 décembre, le 15 décembre, le 22 décembre et le 29 décembre. Donc on peut encore féliciter nos commerçants de travailler le dimanche aussi. Donc voilà, c'est une dérogation qu'on doit faire pour le repos dominical, pour le travail du dimanche. Qui s'abstient ? C'est
quelque chose qui se fait chaque année ? Oui, on est obligé de redélibérer chaque année, oui, donc... Alors, ce n'est pas forcément pris, hein, c'est une possibilité, la loi permet de le prendre. Donc, c'est vrai que...
C'est eux qui font les demandes de date.
On a vu avec l'union commerciale, on prend, mais aujourd'hui, ils n'utilisent pas les 12. Hein. Mais bon, on t'en laissait cette possibilité. Je pense qu'on a tout intérêt que nos commerces du centre-ville aient un maximum de souplesse. Et s'ils doivent ouvrir les dimanches, eh ben, autant leur laisser la possibilité. On ne peut pas aller plus loin, c'est le maximum que la loi nous autorise.
12 jours.
Donc moi, je vous propose qu'on délibère dans ce sens-là. Aujourd'hui, ils n'en abusent pas, et loin de là, et c'est vraiment calé sur des événements très particuliers. D'autres questions sur cette délibération ? Donc s'il n'y a pas de questions, je la mets au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Et bien, on a épuisé tous les sujets de l'ordre du jour. Donc, je vous remercie pour tout le travail qui a été fait tout au long de l'année 2023 avec de nombreuses commissions. Comme le soulignait Sylvia, quand on est toute seule, effectivement, il y a beaucoup de commissions, donc ça fait beaucoup de travail et c'est compliqué. Je remercie tout le monde donc, pour tout ce travail. L'année 2024 sera certainement encore très riche, qui a beaucoup de sujets, comme le soulignait Eric en disant que le budget était volontariste et qu'il nous faisait confiance, mais qu'il fallait maintenant qu'on passe à l'étape suivante. Et je vous souhaite donc à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et à la fin, rappelez-vous, on avait prévu de dire qu'on trinquerait un pot à l'honneur de notre travail de 2023 et pour tous continuer à se féliciter autour du verre de l'amitié. Merci.
Je crois que la taxe, c'est ça.